Le livre se rencontre avec Kylie sur Signe des Sabots, qui a fait partie de l'ensemble. D'abord, une question, c'est ma star. Je voulais vraiment remercier la librairie Kléber de nous accueillir ce soir. François Wolterman qui va nous rejoindre pour sa réactivité sur cette date. Je voulais aussi remercier le distributeur du film qui est la société Le Pacte, qui était déjà venu avec mon livreur il y a quelques temps, et qui est recommandé par Philippe Plus, qui est le Strasbourgeois, donc qui est rentré chez lui ce soir. Voilà, on dit aussi qu'on avait accueilli la petite amie en 2006 pour faire les cendres, un très bon souvenir, il était déjà très fort, je pense que c'était qu'il y avait un des trois à 6 ans, voilà, c'est un peu ça, avec la neige. Et ce soir, on rentre tellement à Paris, on a des salles de toutes les neiges à cette saison, donc voilà, je mène la recherche de la neige. Et puis surtout, je vais vous féliciter, puisque ça fait deux jours maintenant que votre film, Les Sabots au cœur de patience, est à l'affiche, et que, un peu comme Bachelor, finalement, il y a deux semaines, les deux films ont vraiment trouvé leur place dans les salles de cinéma, il y a vraiment du public et beaucoup de public, enfin, ça a très bien commencé. Donc voilà, par vos sortes, on peut vraiment le féliciter. Donc, ouais.
Quand on a commencé à présenter le film, de faire les avant-premières, donc on a demandé quelques films, évidemment avec le distributeur de Pact, que je remercie en passage, Philippe, qui est présent, donc je suis bien sûr avec Strasbourg. C'est vrai que à chaque fois, pour des raisons, pour le film, mais aussi bien pour lui, après 2008, pour faire une patience. On va présenter la paix à la copie, donc pour nous, c'est une ici présentée. À chaque fois, c'est un bonheur de retrouver ici. Merci encore que la librairie Kléber nous accueille généreusement.
Voilà, donc on est dans un contexte quand même un petit peu particulier, parce que je suppose qu'il y a des gens qui connaissent par cœur l'œuvre de Dati Krajny, peut-être des gens qui ont vu son film précédent, qui ont peut-être déjà vu, puisqu'il est en salle, Pierre de Patience. Et puis je pense qu'il y a certainement des gens qui ne connaissent pas du tout Pierre de Patience et qui n'ont pas vu le film. Donc, pourquoi dire pour ces gens-là, voilà, je pense qu'il est important pour cette rencontre-là de ne pas révéler certaines choses, de rester un petit peu distant pour leur donner envie, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à pas dire, sinon ça cache un petit peu quand même la future vision du film. Et puis surtout, puisque la Kléber est son partenaire et a offert un tarif préférentiel ce soir, donc je pense qu'il y a des gens qui vont suivre après pour la première. Voilà. Moi, je suis un petit peu mal placé pour parler vraiment de votre carrière littéraire. Par contre, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que finalement, vous avez une formation à la base qui est cinématographique. Et que peut-être certains pensent que vous êtes un écrivain qui s'amuse un petit peu comme ça à adapter ses romans, mais à la base, vous êtes autant écrivain que cinéaste.
Oui, mais maintenant, c'est avec mon deuxième film qu'on découvre ça. C'est vrai. Alors que moi, quand j'ai quitté l'Afghanistan, en France, en 85, c'est sûr que je ne pouvais pas écrire en français et je me demandais à quoi bon écrire en persan, pour qui, pourquoi. Donc, j'ai parti à la recherche de la nouvelle langage, plus accessible pour moi, c'était l'image. C'est-à-dire, bien avant, quand j'étais en Afghanistan, j'aimais le cinéma. Les films que je regardais, c'était des films austères. Donc, pour un poignet de dollars, le Sergio Leone, c'était un film. Donc, c'était pendant des années, gravé dans l'esprit. Et plus tard, au Centre culturel français, j'ai découvert le cinéma français. J'ai découvert tous les films de Godard, Truffaut, et Cosoté, Mais, alors, le film d'après, Hiroshima, mon ami, c'est un film que j'ai vu ce film, je comprends pas grand chose, c'est facilement, le langage du race, c'est compliqué pour moi, donc, toutes ces contradictions sur les femmes, donc, je ne comprenais pas, mais tout ce que vous voyez, il y a un problème. Et je me dis, pas bah, voilà, c'est aussi, le cinéma, c'est ça, c'est politique. Donc, ce mariage extraordinaire entre la vie de la nature et le cinéma, c'est que j'ai découvert dans Hiroshima, dans la cour. Et quand je suis arrivé ici, donc, d'abord, je voulais apprendre, enfin, dans le concept que j'ai, parce que quand j'étais en Afghanistan, j'étais, bien sûr, j'étais au lycée Franc-Arcan, mais on apprenait la langue française à partir de 6e. Et c'était pour 3e qu'on commençait à apprendre, il y a 4 autres matières en français. Et malheureusement, l'arrivée en 3e est venue des bandes communistes, des Français ont quitté l'Afghanistan, et je me suis arrivé au Franc-Arcan. Et après, moi j'ai quitté la prison, je suis parti pour Rome. De retour en 80 en Afghanistan, donc je ne savais pas quoi faire vraiment. Donc je n'ai pas bien continué mes formations linguistiques au lycée. Donc, je dis rien, je voulais de nouveau repartir de l'histoire. Le seul endroit où vraiment je m'amusais, c'était le centre culturel de Franc-Arcan pour voir du film. Donc voilà, c'était quand j'arrivais ici en France, je voulais apprendre le français, mais pas pour des centres de formation linguistique, mais à travers la littérature. Donc je me suis inscrit directement à l'université de Rouen comme auditeur libre. C'était catastrophe parce que je comprends rien. C'était compliqué. Et tout de suite, je me suis mis à travailler sur la littérature moderne, etc. Mais voilà. Alors après, je retourne à l'université. Le premier cours, c'était l'ancien français. Donc, vous allez voir le français, le latin. Donc c'était assez très compliqué. Voilà, je suis accroché d'apprendre le français à travers la littérature. Et puis, en arrivant en maîtrise, ma première année de département audiovisuel à l'université de Rouen, et tout de suite je me suis inscrit, et j'étais le premier étudiant à avoir écrit un mémoire de maîtrise audiovisuelle. Donc j'ai écrit un mémoire sur le chant contre chant dans le cinéma. Parce que pour moi, c'était ce processus qui a permis au cinéma de trouver son langage. Après, j'ai travaillé sur ma thèse à la Sorbonne Nouvelle, consacrée à la fin, donc c'est dans le film, la fin du film, comme je le cas. Parce que j'avais lu un article formidable d'un professeur de la Sorbonne qui analysait le film de Renoir, qui est parti de campagne, pour le début du film, pour montrer comment le spectateur entre dans la fiction. Dans un film. Et moi, je me suis posé la question, mais alors comment le spectateur sort du fiction? C'était assez amusant aussi, mais j'étais toujours étonné parce que j'ai trouvé que, par exemple, un film tel que James Bond, dès le début, on connaît comment ça se termine. Mais alors pourquoi on s'attache à un résiste? Et on va jusqu'au bout, on le regarde, on a des derniers plans de film. Si on l'a pas vu, donc on l'a vu, on n'a rien vu aussi. Donc, pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de spectateur d'aller jusqu'au bout? Et même quand on regarde un film une énième fois, comment le cinéma, l'industrie du cinéma, avec ces dispositifs, enferme le spectateur, bien sûr, dans une salle, et ensuite, petit à petit, lui permet de sortir de cette salle, mais restant toujours dans cette fiction, dans son monde imaginaire. Et puis, voilà, et on retire ça, cela c'est non seulement grâce au dispositif du cinéma, mais aussi grâce à notre dispositif psychique, qu'on a nous-mêmes, on aime voir comment sortir quelque chose. Et là, j'ai trouvé dans chez un grand théoricien psychologique français, Lautner, une formule magique. Cette formule, c'était je sais bien. Mais quand même. Et on est tous, les spectateurs, on est dans ce dispositif psychique. Dès qu'on entre dans une salle de cinéma, on sait que c'est de la fiction, c'est de la fiction. Mais quand même, on se laisse envahir par le monde de fiction, par la dramaturgie, on pleure, on rit, et on s'énerve. Et on y croit. C'est ça qui m'a fasciné. Et ensuite, tout ça, j'ai travaillé par rapport à la marque. Donc, quand j'ai terminé mes études, je devais faire un stage dans une société de production et étudier le doctorat avec des vérifications. Non, c'était très théorique. Oui, non. Et malheureusement, j'ai écrit pas mal de scénarios comme ça, de courts-métrages. J'avais pas les moyens de les réaliser. On n'avait pas à cette époque les moyens qu'on a aujourd'hui. Les gens faisaient des vidéos, on fait une caméra vidéo. Donc, j'avais pas tout ça. Et donc, mais tout de suite, j'ai trouvé un stage à Versailles, là-bas. Donc, j'ai commencé comme ramasseur de câbles, pour le tournage, des films institutionnels, publicitaires. Et ensuite, cette société devait réaliser un film pour le lancement du modèle de Citroën à Deauville. Donc, et là, je voyais qu'il y avait quand même un groupe qui se grattait la tête pour trouver une idée visuelle, etc. Et moi aussi, je me suis glissé donc pour ça, et je donne une idée. Et tout de suite, cette idée a été acceptée. La société a eu cet appel d'offre. On a réalisé. Ensuite, j'ai fait ma deuxième mission, c'était d'écrire. Parce que j'ai eu le citoyen, mais je connais, c'était vous qui avez eu. Alors, ça faisait une sorte d'opéra. Opéra, mais ça s'est fait un film institutionnel. Mais par contre, ma deuxième mission, qui était pour une sorte publicitaire pour toujours, oui, vous devez connaître, c'est dans les années 93-94, c'était pour le 205. Là où vous voyez, il y a un garçon, il y a deux filles et un garçon. Le garçon est dans une sorte de Rolls Royce et un petit garçon qui meurt avec un caisson, n'importe comment, voit juste cet écrit de son sage. Il vient, traverse le champ et il écrit « Oh !» C'était ça, donc, et après je continuais, mais au bout d'un mois et demi, j'en avais marre, je ne pouvais plus, donc, ça y est. Petit à petit, j'ai commencé à écrire des scénarios, après j'ai réalisé du film, beaucoup de plus de films institutionnels publicitaires. Et ça y est, j'ai pu avoir une certaine connaissance, et dit, sinon je vais vite à l'absus. Après, je me suis lancé dans le cinéma documentaire, par contre, pour poser du cinéma institutionnel. Donc j'ai réalisé ce film en trois, et ils sont sortis bientôt dans le coffret, mes trois films sur l'Afghanistan. Mais avant, on m'intéressait à l'Afghanistan, j'ai fait un film sur sur l'absinthe, les lignes d'impressionniste. Et ensuite, j'ai fait sur la pratique du journal intime. J'ai fait aussi un film sur le foot. Voilà, je vous ai dit tout ce qui me plaisait. Donc, je n'avais pas comme ça des charges, voilà. Mais non, je faisais, par exemple, j'ai fait un film sur le foot, c'était le match entre l'Iran et les États-Unis en 1958. Voilà, le Paris-Mal. Et là, moi-même, je suis allé en Iran avec trois caméras. J'ai envoyé un autre un ami à Los Angeles pour qu'il me dise l'année à Los Angeles, et un autre à Londres, un autre à Paris. Et on a filmé tout le long du match. On ne voit pas le coup. On ne voit pas le ballon. On ne voit rien. On voit que le visage des Iraniens qui regardent le match. Et la bande sonore, c'est par contre, c'est ça qui change d'un pays à l'autre, mais ensuite, du début à la fin, le match. Et ce que je vous dis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Iran, par exemple, c'est en persan, en France, en fait, français, etc. Mais il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est le temps. Par exemple, il y a un endroit, c'est la nuit, l'autre endroit, c'est le jour, etc. Tout ça, c'est formidable, mais par exemple, quand le premier but, quand on met l'équipe iranienne, alors on voit en France, partout, ouais, l'applaudissement, les rires des Iraniens, à des moments, il y a un silence. Et 10 secondes plus tard, ouais! Alors il y a un décalage, mais ce n'est pas un décalage technique, c'est un décalage politique. Parce que les Iraniens diffusaient 10 secondes plus tard. D'où le titre du film, Téhéran 10 secondes plus tard. et après, donc, sur l'Afghanistan, j'ai fait un film sur certains, peut-être connaissent cet homme formidable, un dominicain français qui est venu en Afghanistan dans les années 50 pour faire des études sur un grand mystique perse, Ansari, qui enterrait à l'ouest de l'Afghanistan, à la frontière afghane-iranienne, dans la rue de Herat. Et il est venu pour 3 mois, mais il est resté 30 ans. Et c'est un personnage extraordinaire parce qu'il est venu comme chercheur, il enseignait à l'université, après il est devenu prof au lycée pour les élèves de terminale, ensuite il est devenu prof pour l'école maternelle, et à la fin il finit par être infirmier. Il a ouvert un centre de culinaire pour 60 enfants. Il avait alors un père de 60 ans, un personnage mystique formidable. Et il a écrit un livre très connu qui s'appelle Mes enfants de Kaboul. Et dans une partie qui s'appelle Nous avons partagé le pain de sel. Et son documentaire est une adaptation de son livre. Voilà. Et ça va arriver là. C'est vrai. Et voilà, dans un coffret, c'est déjà essayé, c'est bon, mais je n'ai pas encore arrivé ici. Et le deuxième film, documentaire, sur la résistance, c'était sur le roi de la résistance qui est en exil à Rome. Et après, en 2002, Arte m'a demandé de faire un film sur l'histoire contemporaine de la résistance. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Afghanistan, mais A entre parenthèses. Ce qui dans l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'en personne des colons, les A de l'Afghanistan, c'est l'Afghanistan, ça veut dire terre de cri et de plainte.
Ça transforme complètement le mot origine.
Voilà, exactement. Donc j'ai fait ce film-là qui est un va-et-vient entre l'histoire de ma famille. Une histoire assez compliquée. Mon père qui est monarchiste, mon frère communiste, ma mère mystique, ma soeur religieuse. Donc, entre tout ça, je devais choisir de voir mon chemin. C'est vrai, justement. Il ne restait que d'être anarchiste. Donc, j'ai fait ce film-là pour parler. C'était à l'occasion d'ouvrir toute une série de films en 2002 à partir de septembre. Okay, donc, je fais ça. Donc, c'est pour ce film qui se retourne en Afghanistan en 2002, en janvier 2002, quelques temps après la chute des talibans. Je propose de commencer un petit peu de parler de
guerre continue tout autour, c'est très, très important.
C'est pas des romans.
Oui. et que cette femme baisse son mari qui est dans le feu. Je voulais revenir sur cette notion de huis clos parce que c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu théâtral, un petit peu poussiéreux. Aujourd'hui, c'est une interprétation d'adaptation de la biographie. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, alors bien sûr, c'est pas des mais c'est quelque chose qui offre quand même beaucoup de choses et beaucoup d'ouvertures. On avait par exemple l'année dernière, il y a un film de Gondry, Michel Gondry, qui s'appelle Oui, elle dirait, qui se passe entièrement dans un bus. Et rarement, les sentiments des adolescents ont été mêlés à ce point, finement mêlés,
travaillés. Je suis un problème avec les titres, c'est tout se passe à la couleur d'un punk.
Oui, j'ai un film israélien,
ça fait toujours, ça fait pas huis clos, mais au moins, oui, le roman est un huis clos, j'avoue, parce que le narrateur est aussi paralytique que le mari, il ne sort jamais la chambre. Elle ne renvoie jamais la femme. Tout ce qui se passe à l'extérieur est raconté par la femme. Donc, ça. Alors, justement, dans le film, on devait casser ça. Et tout ça, parce que quand je regardais le film de Rossellini, Tophine, La Reine et les Zéros, et puis, vit mon père. Et les deux films sont magnifiques. Et pour moi, cette chambre, ce n'est pas un huis clos, c'est une chambre ouverte. Tout le monde vient, tout le monde part. Voilà. Donc, c'est plutôt ça. Dans le film, je ne parle pas de huis clos, mais une chambre ouverte. Comme Rome qui est une ville ouverte, où les horizons sont venus, on part partout, les sauveurs, les Américains qui entrent, les convaincus qui commettent encore des mandats, des erreurs, des horreurs, etc. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je voulais revenir aussi sur l'adaptation du livre vers le cinéma. Je crois que je ne suis pas sûr que vous avez écrit le livre en français. En langue française. Vous avez écrit ça ou pas? Vous avez écrit le livre en français. Et donc, est-ce que le livre de reposer sur du perse et de faire un film perse à partir du français, de le traduire aussi un petit peu quelque part, et ça en parallèle, vous avez parlé du scénario avec Jean de Carrière, est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à votre propre bouquin? Oui, bien sûr, mais bon, le cinéma, c'est avant que le cinéma vous condamne à être dans l'histoire, dans un espace-temps déterminé. L'histoire, c'est grand H, parce que c'est l'histoire d'un pays, l'histoire d'une civilisation. Donc, je suis obligé d'ancrer mon histoire quelque part, bien sûr. Je ne peux pas avoir la même coquetterie littéraire que j'ai eue dans le livre, quelque part en Afghanistan ou ailleurs. Ça, au cinéma, on ne peut pas dire ailleurs. Donc, c'est tout est. Voilà. Et il y a ça, pour autre chose, l'autre jour, parce qu'on m'a posé plusieurs fois cette question. Et j'ai aperçu une chose, donc, après la sortie du livre Pierre de Passeur, tout le monde posait la question pourquoi il avait écrit en persan et pourquoi il n'avait pas traduit en persan, etc., etc. Je me suis mis à le traduire, mais j'ai fait comprendre un autre livre. Donc, j'ai laissé le faire de traduire. Alors, là, il y a 4-5 traductions dessus. Mais moi, je fais ma propre traduction, d'une certaine manière. Grâce à ce film, je l'ai traduit en images. J'ai traduit dans la langue maternelle.
Et quelle a été la langue de Jean-Claude Carrière au moment à ce moment-là?
C'est justement de me mettre en distance par rapport à mon propre livre, et de lui trouver le langage, si on peut parler de ce récit. Et donc, c'était ça le plus important. Qui donc, parce que lui, il a ce génie extraordinaire d'adapter des livres impossibles au cinéma. Quand on pense à l'insoutenable jeté de l'air, Dieu, donc là, c'est un livre impossible à faire un film, ou quand je vous le grâce, le travail, ou Mahabharata, alors là, c'est du livre monumental, l'adapté au théâtre, alors là, c'est une personne, vous voyez, même les Indiens, donc, ils se sont pas mal avancés dans une telle aventure, plein de trucs, mais voilà, c'est lui, c'est Giorgio Carriere. Très bien, aussi bien la civilisation, la langue, la culture, mais aussi le cinéma. C'est quelqu'un aussi qui a toujours écrit de très beaux rôles pour les femmes.
Il y a autre chose dans le passage, en fait, dans l'adaptation cinématographique, c'est que tout d'un coup, il faut rendre Vivi quelque chose d'un petit peu invite, ce qui est la parole. Voilà. D'ailleurs, il faut qu'elle soit omniprésente, et j'ai l'impression que dans votre film, et je pense que un des grands problèmes du film, c'est que la parole, elle est aussi présente dans les moments de silence, ou même dans les moments creux, par les gestes, par les situations, on a l'impression que finalement la voix, la voix principale, continue à parler.
Oui. Là-haut, oui, c'est un défi. Moi, j'aime toujours faire des livres. Dans Terre et Cendre, je filmais le silence. Il y a très peu de dialogue dans ce film. Et au contraire, dans Pierre de Patience, c'est tout le temps la parole. Quand on s'est lancé dans l'adaptation, moi, Jean-Claude m'a demandé ce que je voulais vraiment filmer. Dans ça. Je lui ai dit la parole. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, filmer la parole? Filmer la parole comme acte. Et on s'est dit, elle a justement travaillé dans ce sens-là. Et elle a trouvé justement son regard magnifique et sa formule magique aussi. Et que, voilà, d'accord, on fait un film sur la parole, mais ça change pas, il faut que ça retrouve une action, oui, mais que je passion. Parce que lui, il dit que, dans beaucoup de films d'action, aujourd'hui, il y a tout le temps la suite infernale de la tuerie. La tuerie interminable, mais il ne se passe pas grand chose. Mais dans l'histoire, il n'y a pas une dramaturgie. Il y a des actions, mais pas de dramaturgie. Alors, il dit que dans mon livre et dans ce film, c'est chaque mot. Dans chaque mot, il y a un changement chez le personnage. Et c'est comme ça que je voulais filmer. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas l'action qui change le personnage, mais c'est chaque mot qui change le personnage. Et l'action est plutôt une action intérieure. Ce n'est pas juste d'avoir la suite infernale. Et les mots deviennent un élément essentiel dans le film. Certains font le film sur la guerre et ils filment des balles. Moi, je fais un film sur la guerre et je filme des mots.
Au centre de votre film, vous avez cette actrice iranienne, Rochita Farhani, la plupart dans la des livres, par exemple, et vous remettez qu'elle porte ce film sur ses épaules. Et quand on prend un petit peu dans l'histoire du cinéma les interviews de réalisateurs qui ont étroitement travaillé avec certaines actrices, comme Marie-Claude Sautet et Ron Schneider, avec une romantique, et ça, c'est un peu gênant dans toutes ces interviews parce qu'on a l'impression que les actrices sont un petit peu instrumentalisées. C'est-à-dire que quand Catalès dit que c'est un Stradivarius, tu es un Roland, ça fait vraiment instrument de prolongation de son travail, de sa pensée, de cinéaste, ça donne une puissance, ça donne un petit peu de puissance au cinéaste. Et moi, je voudrais savoir comment ça s'est passé avec elle, s'il y avait un petit peu de ça, est-ce qu'il faut passer par ce côté instrumental, finalement, dans le rapport des acteurs actrices. Et voilà.
Écoutez, moi, j'ai la chance de travailler avec les lourds acteurs professionnels, Pierre Rostami. Donc, c'est vrai que ça rend plus sensible par rapport aux acteurs et aux actrices du comédien professionnel. Et voilà. Moi, dès le départ, donc, j'ai dit à tous mes acteurs, à Mitya Alba, qui joue le rôle du mari, que j'ai fait par la famille, à Signa, qui joue la tante, etc. Le travail d'un écrivain, d'un scénariste, d'un réalisateur, c'est quoi? C'est de mettre dans son personnage, je me suis dans la merde. Et c'est au comédien qui vient de l'en sortir. Toujours on met, il faut qu'on crée, il faut créer une histoire, ça ne se produit pas comme ça. Il faut qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait un emmènement des deux personnages. Voilà, on fait ça. Et durant la mise en scène, aussi, on a ça. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans la dramaturgie, mais aussi dans la manière de diriger aussi ces comédiens. Toujours on crée des obstacles. Toujours on met un défi entre la caméra et les comédiens. Donc, il y a tout un jeu. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas de grâce, de le mêler toujours. Ça, on peut dire que c'est instrumentalisé. Les comédiens, on ne sait pas. Mais il y a un travail relationnel. De la même manière que, quand j'écris, j'essaie de trouver des mots pour les poser sur mes sentiments, ou les ressentiments. Le travail que je donne aux acteurs, aux actrices, c'est de trouver des sentiments pour les poser sur des mots, et que dans le scénario, c'est un mouvement d'armée. Donc il y a tout un travail entre nous, on travaille pour trouver des sentiments communs et de temps en temps très contradictoires. Et c'est comme ça. Donc, oui, il y a. Quand c'est. Les comédiens incarnent le personnage que vous avez créé, que vous avez imaginé. Vous aimez bien, donc, aussi diriger le acteur dans le sens que vous souhaitez. Amener vos personnages. Donc, je ne sais pas, je ne dirais pas c'est instrumentalisé, je dirais c'est incarné, mais incarné.